Au Sahel, on rentre dans la phase de confrontation après les défaites successives du camp France au temps US, à la fois au Mali, au Burkina et en Guinée entre autres, où les plans de coup d'État ont débouché non pas sur des régimes inféodés, mais sur des gouvernements patriotes panafricanistes prompts à faire passer les intérêts des Africains bien devant ceux des Occidentaux, des gouvernements qui ont remis sur les rails les armées nationales, ont mis à la porte ou sont en train de s'expulser les forces d'occupation franco-occidentales dont la mission n'a jamais été celle de sécuriser le Sahel, mais bien au contraire celle d'y injecter une grosse dose du terrorisme via des réseaux terroristes liés à leurs services secrets. Alors qu'au Niger, Bazoum a fini par céder aux pressions, aux menaces et aux chantages occidentaux, ouvrant les portes de son pays ultra-stratégique aux armées d'occupation européennes, ce qui fera que Barkhane et Takuba, boutés hors du Mali, vont se redéployer au Niger et ce, sous l'espice des Yankees qui gardent bien leur base à Agadez, cette même France vient d'envoyer un ex-gendarme à son ambassade à Bamako, n'ayant même pas honte de dire qu'elle le fait parce qu'il y a trop de pression sur l'ambassade française. Le nouveau chargé d'affaires, Marc Didiot, est un ancien chef d'escadron de la gendarmerie, où il comptabilise, selon le journal officiel, 16 années de service. Avant d'être nommé à Bamako, Marc Didiot était numéro 2 de l'ambassade de France à Abidjan, après avoir également été en poste à Alger. De sources diplomatiques, son arrivée vient muscler l'équipe de l'ambassade de France au Mali, soumise à une importante pression, lit-on à ce sujet. Mais il est peut-être temps que l'ambassade française au Mali, autrement dit le nid d'espions de la France au Sahel, soit bannie une fois pour toutes, surtout que d'ores et déjà ces deux évolutions marquent une victoire et un défi pour les Maliens. L'OTAN a été forcée de se retirer du Mali, mais il se redéploie au Niger, où ce qui revient au même, le Niger devient le nouveau QG des armées d'occupation. Voici ce qu'en dit RFI Média Colonialiste par excellence. C'est officiel. Une partie des quelques 2400 soldats français de l'opération Barkhane et les 900 forces spéciales européennes Takuba qui doivent quitter le Mali vont être redéployés au Niger dans les prochains mois. En février, le président Mohamed Bazoum avait déjà donné son accord de principe pour ce redéploiement, mais il fallait obtenir l'accord du Parlement nigérien. C'est désormais chose faite, les députés ont pu en débattre, toute la journée en présence du Premier ministre. Cette initiative n'était pas du tout de tous les goûts des élus. Ils sont nombreux à avoir pointé des zones d'ombre dans le texte proposé, demandant davantage d'informations concernant cet accord de coopération. La Constitution est mise de côté pour permettre au pouvoir de faire un passage en force. Nous n'avons pas été autorisés à voir ce que contient les accords ou l'accord qui va nous lier. On nous a demandé de donner un blanc-seigne au gouvernement, ce que nous avons refusé, à résumer Soumana Sanda du parti Modèle Lumana, fort de 19 députés. D'autres ont exprimé leur peur de voir leur pays perdre sa souveraineté et son intégrité. C'est clair, cette occupation de facto du territoire nigérien ne passe pas. La Constitution a été violée. Les clauses en restent secrètes et donc cette occupation militaire du territoire nigérien va être combattue, surtout que c'est au Niger qu'à la fin 2021, le monde entier a pu assister à la première insurrection de la population contre des convois militaires de Barkhane, mais ce front de combat anti-occupation a un volet externe et ce volet se situera entre le Niger d'une part et le Mali et très probablement le Burkina de l'autre. Car le Mali étant en guerre contre les néocolonialistes est parfaitement en posture offensive. Fin mars, les premières raids anti-occupation ont été effectués par les hélicos de combat maliens, dans un pays où le ciel se met sous protection des radars d'interception russes en vue de faire face aux assauts aériens. La France peut envoyer tous les agents et gendarmes qu'elle possède à son ambassade à Bamako. Le procès n'en reste pas moins irréversible. Un front de combat se forme entre le Mali et les États-nations sahéliens d'une part et l'occupation occidentale de l'autre. On se rappelle que début avril, le groupe Bolloré avait fait état du retrait de ses activités logistiques sur le continent africain en les cédant à son ancien rival, MSC, pour 5,7 milliards d'euros. On se rappelle également que Zoom Afrique avait mis en garde contre la volonté américaine d'avoir une emprise sur les ports de l'Afrique et de les transformer en lieu de transfert de drogue. Il est clair que ce retrait se fait sous l'ordre des États-Unis, qui veulent d'abord d'une emprise totale sur les ports et les réseaux ferroviaires de l'Afrique et de l'autre, injecter la drogue et la mafia dans l'ouest de l'Afrique, avait-on dit dans l'édition du 2 avril du Zoom Afrique. En effet, cette compagnie italienne, MSC, qui a pris la place de Bolloré, est une compagnie qui a réputé de détenir le record de saisie de cocaïne. Ce n'est pas sans raison que le peuple africain, que ce soit celui de l'Afrique de l'Ouest, de la Corne de l'Afrique ou du Sahel, demande sans cesse le retrait de toute instance ayant des liens avec l'axe US-OTAN. La police a annoncé samedi avoir mis la main sur plus de 2 tonnes de cocaïne dans les villes côtières d'Abidjan et de San Pedro. C'est une nouvelle saisie record pour le pays où le trafic de cocaïne semble s'accentuer ces dernières années. Au total, 2 tonnes et 57 kilos de cocaïne ont été saisies avec l'interpellation de 9 individus, ivoiriens et étrangers, d'après le ministère de l'Intérieur, estimé à plus de 62 millions d'euros. Il s'agit de la plus grosse prise de ce stupéfiant en Côte d'Ivoire depuis celle de l'an dernier, 2 fois moins importante. La police ne précise ni la nationalité des suspects étrangers, ni le pays de provenance de la drogue. Mais les opérations précédentes ont montré que la cocaïne partait d'Amérique latine, plusieurs fois du Brésil, avec l'Europe pour destination finale, ce qui place, de fait, la Côte d'Ivoire dans la liste des pays de transit en Afrique de l'Ouest, lit-on sur RFI à ce sujet. Bien que la police ne précise pas la nationalité des suspects étrangers, ni le pays de provenance de la drogue, on se doute bien qu'avec la présence d'une compagnie réputée pour sa mafia de drogue, la MSC soit à l'origine de cette affaire. Le nouveau plan occidental visant à déstabiliser la Côte d'Ivoire prend de nouvelles formes. En effet, sur le plan militaire, le clan occidental ne se gêne pas de s'attaquer aux civils sous prétexte de manœuvres militaires. Et sur le plan économique, on accuse le pays d'être impliqué dans des affaires de transfert de Barkhane. En commençant par attaquer les armées africaines, cet axe déstabilisateur poursuit son plan en affaiblissant les économies africaines et c'est ensuite en cherchant à transformer le continent en un hub de la drogue que l'axe US-OTAN tente de jouer sa dernière carte. L'axe occidental cherche à déposséder le continent de toutes ses richesses et il semble vouloir le faire par la porte du trafic de la drogue. Malabo est repassé à l'offensive dans le dossier des biens mal acquis dans lequel son vice-président Teodoro Guéma Obiang-Mang, dit Théodorin, avait été condamné en première instance en octobre 2017, puis en appel en février 2020 et en cassation en juillet 2021 à 3 ans de prison avec sursis et à 30 millions d'euros d'amende. Ce 20 avril, Maître Kevin Grossman a ainsi plaidé devant la Cour d'appel de Paris pour obtenir la restitution du 42 avenue Foch qui abrite l'ambassade équato-guinéenne. Mais de quoi s'agit exactement cette affaire? Luc Michel, géopoliticien, nous en dit plus.
L'affaire des biens mal acquis dans le volet équato-guinéen est terminée et le procès qui s'ouvre en avril n'a rien à voir avec les biens mal acquis. C'est un procès en restitution ouvert par l'État équato-guinéen. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2016, on a saisi l'immeuble de l'avenue Foch où est établie l'ambassade de Guinée équatoriale en prétendant que cet immeuble appartenait au vice-président de Guinée équatoriale. Mais en 2012, cet immeuble est devenu la propriété de l'État équato-guinéen. Il a donc été saisi illégalement et l'État équato-guinéen a entamé un nouveau procès, le procès en restitution, qui n'a rien, je le précise, à voir avec l'affaire des biens mal acquis et qui vise à rentrer en possession de l'immeuble de l'avenue Foch. Il faut ajouter une chose, c'est que l'État équato-guinéen possède tous les titres de propriété de cet immeuble Elle a réglé à l'État français les droits d'acquisition, notamment les taxes qui sont payées lorsque vous achetez un bâtiment. Et chaque année, elle paye elle-même la taxe foncière. C'est donc un complot. Derrière cette affaire, il y a un nouveau complot qui s'est mis en route contre Malabo. Le but, c'est de semer la confusion. Il y a tout d'abord l'attaque des réseaux de George Soros. Il y a le journal Le Monde Afrique contre la nouvelle capitale de Mongomo sur la partie continentale de Guinée équatoriale dont nous avons parlé il y a quelques semaines. Et deuxièmement, il y a une opération de barbouzerie dont l'État français est habituel. Il y a un livre diffamatoire qui est sorti aux éditions Le Voyageur contre le président Biagnéma. Derrière ce livre, on trouve une série de groupuscules démonétisés, organisés par les services secrets français et espagnols, le groupe Démocratie libérale de Severo Monto, le groupe Troisième République, ce qui reste de la Corrette française, etc., etc. On trouve particulièrement, derrière la sortie du livre diffamatoire, une barbouze française. Il s'appelle Calas de Ferluc. Il avait tenté d'infiltrer l'ancien ambassadeur de Guinée équatoriale à Paris dans les années avant 2010. Et lorsqu'il avait été découvert et neutralisé, il était ensuite dirigé vers le volet gabonais de l'affaire des biens mal acquis. On l'a retrouvé en 2017, de nouveau en action contre la Guinée équatoriale, puisqu'il est accusé par Malabo d'être l'un des organisateurs du coup d'État de décembre 2017 et janvier 2018. Voilà ce qu'il faut savoir. Ce coup d'État de 2018, il fait suite au coup d'État de 2004 et l'affaire des biens mal acquis ouverte contre le vice-président Théodore Mangé-Obiang-Nguema, c'est la suite de ce coup d'État raté. C'est organisé par des pétroliers britanniques, l'État français, les barbouzes françaises et les réseaux de George Soros. Dernière chose à dire, ne croyez pas que la bonne gouvernance, la justice, la démocratie ou la corruption a quelque chose à voir avec l'affaire des biens mal acquis, comme vous le dites, dans le cadre de la Guinée équatoriale. Ce qui est en cause derrière, c'est la géopolitique du golfe de Guinée. En effet, Malabo est le principal allié de Moscou et de Pékin dans le golfe de Guinée. En 2015, Malabo a ouvert tous ses ports à la flotte de guerre russe, disposition qui a été complétée par des accords similaires avec le Congo-Brazzaville. Le vice-président qui est dirigeant en matière de défense de la Guinée équatoriale, Théodore Mangé-Obiang-Nguema, le principal accusé des biens mal acquis, c'est l'interlocuteur de Poutine qui l'a reçu à Moscou en tête-à-tête en janvier 2020, et c'est l'interlocuteur des généraux de l'armée populaire de libération chinoise avec lequel il a organisé des accords d'armement et de défense. C'est donc la bête noire des Occidentaux. Il est considéré comme l'homme qui a introduit la Chine et la Russie dans le golfe de Guinée. Deuxième dossier, c'est la géoéconomie. Malabo, c'est l'État pilote en Afrique, l'État leader dans la production du gaz. Sur l'île de Bioko, à Punta Europa, il y a l'installation la plus moderne au monde de production du gaz liquéfié. Malabo est participante dans ce qu'on appelle l'Association des États producteurs de gaz. On l'appelle l'OPEP du gaz avec la Russie, l'Iran, le Venezuela et l'Algérie. Le but de cette OPEP du gaz, c'est d'arracher aux Américains et aux Français de Total le marché du gaz. Il y a eu un sommet il y a quelques semaines à Doha. Les producteurs de gaz, y compris d'anciens alliés de l'Occident, comme les Émiratis et comme le Qatar, ils ont pris le parti pris de la Russie et ils soutiennent la Russie dans la guerre du gaz qui est ouverte vis-à-vis du dossier ukrainien. Donc arrêtez de croire la propagande occidentale et de répandre les mensonges de celle-ci. Le procès de Paris n'est pas ouvert dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis. Il est ouvert à la demande de la Guinée équatoriale pour se faire restituer à un bien qui lui a été spolié par l'État français. Et cette affaire n'a rien à voir avec la corruption, mais uniquement avec la géopolitique et la nouvelle guerre du gaz.
Au Ghana, le secteur agricole a enregistré une croissance de 8,4% en 2021. Au Ghana, le PIB agricole a connu une progression de 8,4% durant l'année 2021. Ce niveau fait de l'agriculture le second secteur ayant enregistré la plus forte amélioration d'une année sur l'autre derrière celui des services, 9,4%. Cette dynamique a contribué à porter la croissance de l'économie à 9,4% durant l'année dernière. Au Ghana, l'agriculture compte pour plus de 20% du PIB et emploie le tiers de la main-d'œuvre totale. Au Ghana, l'agriculture est essentiellement pluviale et moins de 5% des terres agricoles sont irriguées. Avec la fréquence des événements climatiques extrêmes, la question de l'irrigation est devenue cruciale pour l'amélioration de la productivité agricole. L'ex-président du Kenya, Mwai Kibaki, est décédé le vendredi 22 avril 2022 à l'âge de 90 ans, selon l'actuel chef de l'État Uhuru Kenyatta à la télévision nationale. « C'est un triste jour pour nous en tant que pays », a dit le président Uhuru Kenyatta avant d'annoncer la mort de l'ancien chef de l'État, Mwai Kibaki. « Nous avons perdu un grand leader », l'ancien président Mwai Kibaki a-t-il informé en ces termes. Né le 15 novembre 1931 dans le village de Gatuyani, dans la province centrale de Yeri, Mwai Kibaki est décédé ce jour, 22 avril 2022, troisième président du Kenya. Il a dirigé son pays de 2003 à 2013. Après ses études en économie, histoire et sciences politiques, Mwai Kibaki obtient un poste d'enseignant avant d'être ramené chez lui en 1960 par le Parti du nationalisme africain au Kenya, qui devait conduire le pays à l'indépendance car il avait besoin de cadres bien formés. En 1963, il est arrivé à obtenir un siège au Parlement en remportant une circonscription à Nairobi pour la CANU. Le président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a visité le 22 avril le chantier de construction de l'aéroport international d'Amjaras, rapporte la présidence. Il s'agit pour le chef de l'État de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de cet aéroport, qui représente un investissement qualitatif en termes économiques et de désenclavement de la province. Confiés aux groupes d'entreprises AFCOPRE et SNER, ces travaux sont presque achevés. Il ne reste que quelques détails techniques de finition, le balisage et le nettoyage. Le joyau architectural est constitué des bâtiments, des aménagements, des voies techniques, des parkings, des zones passagers, bureaux et pavillons présidentiels. C'est en compagnie des responsables du groupe d'entreprises en charge des travaux et des autorités provinciales que le chef de l'État a fait le tour de différentes installations, très regardant quant à l'exécution des travaux dans les règles de l'art et des clauses contractuelles. Il a marqué plusieurs arrêts dans les différentes installations pour poser des questions d'éclaircissement au groupe d'entreprises AFCOPRE et SNER. Le président de la transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a sollicité jeudi l'accompagnement du corps diplomatique accrédité dans le pays ainsi que les représentants des organisations internationales et interafricaines dans le cadre de la gestion de la transition. C'est une rencontre d'échange voulue par le président du Faso sur la conduite de la transition, la perspective étant d'obtenir le soutien et l'accompagnement des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour une mise en œuvre réussie du processus, indiqué la présidence dans un communiqué à l'issue de la rencontre. M. Damiba a présenté aux ambassadeurs et représentants des organisations internationales et interafricaines les étapes des premiers mois de la transition et les objectifs de la transition, faisant un plaidoyer pour un accompagnement des partenaires du Burkina Il a affirmé que des efforts ont été consentis pour la mise en place des mécanismes et des institutions de la transition.